Ce soir, pendant une heure, la CGT, rien que pour vous.
Bonsoir à toutes et à tous et heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, une heure avec la CGT et son union locale des syndicats du bassin de Vierzon. Donc à Vierzon comme ailleurs, il est 18h et nous allons attaquer notre émission. Avant toute chose, l'union locale CGT vous adresse ses voeux pour cette nouvelle année 2026. Alors vœux de santé, de bonheur, d'amitié et de paix pour vous, vos proches et vos amis. Et nous formons le vœu que 2026 soit pour tout ça un grand cru. Chaque année, il est de bon ton de jeter un œil dans le rétroviseur, en l'occurrence 2025, qui n'a pas manqué de rebondissements, mais cette année, on préfère mettre plutôt le projecteur sur 2026. Année que la CGT espère faite de victoires du monde du travail, même si ce ne sera pas une partie de plaisir, on en est conscient. Mais l'espoir est là, et la CGT n'a jamais eu peur de la confrontation des idées, pour améliorer le quotidien de ceux qui travaillent et de ceux qui en attendent, pour mener le combat. Alors d'abord, combat dans la lutte contre les inégalités, on le verra tout à l'heure dans un des thèmes, en tout genre, qui pourrissent la vie de tout un chacun, contre les violences d'où qu'elles viennent, qu'elles soient sexistes, sexuelles, dans le travail ou dans la vie de tous les jours, violence d'une société capitaliste qui broie toujours plus les faibles pour le bénéfice d'une minorité. Ensuite, combat contre l'extrême droite, nous allons reprendre notre croisade, si je puis dire, en continuant à dénoncer ces idées qui gangrènent nos esprits, continuer de mettre à jour ces compromissions avec le grand patronat et démontrer que ses intentions et ses actions sont toujours du côté des plus riches au regard des votes que ses députés ont produits à l'Assemblée nationale depuis juin 2024. Ensuite, victoire dans les revendications portées par un front syndical le plus large possible, car c'est dans l'unité la plus large, respectant nos différences, mais rassemblant nos convergences, que les revendications légitimes aboutiront. Loin, l'espoir est de notre côté, et la CGT est prête. La dite réforme des retraites n'a-t-elle pas coûté déjà la vie à 5 gouvernements Macron ? Donc mine de rien, ça veut dire que même si la victoire n'est pas au bout, on a mis un pied dans la porte. Certes, le prince de l'Élysée persiste dans ses mauvais choix, qui de toute évidence penche plus à droite, voire même plus, au point de préparer le terrain pour une arrivée probable au pouvoir du RN. Alors même s'il est dans la tradition de la CGT de ne pas appeler à voter pour tel ou tel, elle aspire à voir une gauche unie dans les échéances électorales qui se profilent au printemps prochain, car les salariés ont besoin de relais politiques forts pour réindustrialiser et développer les territoires, permettre aux gens de vivre solidaires et heureux, de vivre mieux et de participer à ce qui se passe dans leur cité. Nous l'avons vécu dans la défense de l'hôpital de Vierzon il y a quelques années pour son bassin de vie et nous avons eu raison de nous mobiliser, nous syndicats, auprès des élus politiques. Et ça n'a pas été mince, on a réussi à maintenir des services alors qu'ailleurs la mobilisation étant moins forte. J'ai en souvenir la maternité du Blanc par exemple, où effectivement il y a eu des conséquences un petit peu plus dramatiques. Et enfin des mobilisations contre les idées rétrogrades de la droite, celles nauséabondes de l'extrême droite, pour la fin des cadeaux aux entreprises sans autre regard que celui de voir monter toujours plus les dividendes, pour une justice sociale mais qui passe inéluctablement par une justice fiscale, pour des salaires et des pensions dignes de ce nom permettant enfin de vivre de son travail, des fruits de celui-ci, de la redistribution, pour une vie propre sur cette terre qui est notre dernier abri, pour des services publics à la hauteur des enjeux pour que personne ne soit privé de l'essentiel. La santé, l'éducation, la sécurité, les transports, pour ne citer que. Pour une paix revenue en Ukraine, en Palestine, mais partout ailleurs où le capitalisme ne propose pour sortir de sa crise perpétuelle que de la chair à canon à la place d'une paix universelle. Alors vaste programme, me direz-vous, et alors ? Si l'on ne se fixe pas ce genre d'objectif, nous retenons nos valeurs et capitulons devant l'effort commun à produire pour vivre mieux, car les moyens sont là, il faut seulement les conquérir sans plus tarder. Alors donc, au boulot à tous, et bonne année 2026. Il est donc temps maintenant de passer au programme de ce soir. Alors ce soir, on va parler du projet de loi de finances de la sécurité sociale qui a été voté en fin d'année dernière. Bien que la discussion sur le projet de budget ne soit encore en cours, on n'en connaît pas l'issue, mais pour le moment, on peut déjà s'exprimer sur ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. On abordera les atteintes aux libertés syndicales qui n'ont jamais été aussi fortes et aussi violentes. On reviendra effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de combattre l'extrême droite, hein. On évoquera un problème crucial, les inégalités de classe, et qui conduisent aussi, ou dont la conséquence est aux inégalités de salaire. Et nous évoquerons ce que le capitalisme nous propose, le monde à l'envers, on développera cela. Et enfin, on finira par une petite page d'histoire, puisqu'on a fêté en décembre les 110 ans du Code du travail. Voilà pour le programme de cette heure qui me semble bien fourni.
You come to me.
De retour sur Radio Tintouin, 101.8 sur la bande FM. Nous allons reprendre donc après cette petite page de Tina Turner. Nous allons reprendre notre premier thème, le projet de loi de finances sur la sécurité sociale. Alors, parce que l'autre fois on m'a dit les sigles, on est un peu perdu, donc voilà, je détaille. Alors donc, ce PLFSS 2026, qui devait apparaître comme un plan social, se transforme en plan de destruction massive. De l'héritage du Conseil national de la résistance, il ne restera bientôt plus rien si de tels plans sont mis en œuvre. À quoi assiste-t-on ? 1. Une mainmise croissante de l'État sur la gestion, au détriment de la démocratie sociale. Cette étatisation a rendu le système dépendant des logiques libérales et des majorités parlementaires. 2. Une fiscalisation croissante du financement qui se caractérise par le remplacement des cotisations sociales par l'impôt ou des taxes comme la CSG. Donc ce projet de loi de finances de la sécurité sociale organise et accentue cette évolution qui préserve les revenus du capital tout en faisant peser le financement sur les ménages. 3. Des exonérations de cotisations sociales accordées au patronat. Chaque plan de loi de financement de la sécurité sociale les reconduit et les élargit, aggravant les déficits et servant ensuite d'argument pour imposer des politiques d'austérité. La recherche de l'équilibre budgétaire, devenu un but en soi, sert de prétexte pour baisser les remboursements de soins, réduire les moyens de l'hôpital public et diminuer les niveaux de retraite. Et en quatrième point, une marchandisation progressive du système. Le projet de loi de finances de la sécurité sociale devient ainsi un outil de remise en cause du modèle social et solidaire issu de 1945 au détriment des travailleurs et de la population. Alors on va faire un petit retour sur les événements de cette fin d'année 2025. Mardi 9 décembre, le projet de loi de finances est adopté en deuxième lecture à 13 voix près par l'Assemblée nationale. Vendredi 12, donc c'est ce qu'on appelle la navette parlementaire, le Sénat a rejeté le texte en séance publique. Ça revient devant l'Assemblée nationale, c'est les institutions qui le prévoient, et le projet de loi de finances est revenu et a été adopté lors d'une troisième et ultime lecture. Le déficit prévisionnel attendu pour 2026 oscillerait entre 18 et 19,5 milliards d'euros après les modifications apportées par les députés. Et enfin, dernier point, même si des mesures négatives ont été évitées, et il y en a, ce projet de loi de finances de la sécurité sociale reste truffé de dispositions néfastes, notamment pour l'hôpital et l'ensemble du système de santé publique. Pour la CGT, la sécurité sociale demeure l'un des derniers remparts face à la voracité sans limite du capitalisme néolibéral. C'est notre bien commun, le ciment de la solidarité entre citoyennes et citoyens. Il faut donc les défendre et les renforcer. Pour cela, le projet que la CGT porte dans l'intérêt de tous et de toutes défend le financement par les cotisations sociales, ce que nous appelons le salaire socialisé. Et je continue à dire que le patronat qui appelle ça des charges n'en sont pas. Et pour renforcer ce plan de la CGT, on propose réformer et élargir l'assiette du calcul de cotisation en incluant les dividendes, les stock options et les primes. Deuxième point, mettre fin aux exonérations de cotisations sociales. Et on a vu par l'enquête sénatoriale que ça gonfle d'année en année et en 10 ans, ça a dû être multiplié par 3 ou 4. Donc à un moment donné, ça va quoi. Créer une surcotisation pour les entreprises qui ont des politiques salariales au rabais et gèrent l'emploi de manière précaire. Parce qu'il y en a qui sont vertueuses et il est normal qu'on les aide. Celles qui le sont moins, eh bien on coupe les aides. Instaurer l'égalité enfin salariale entre les hommes et les femmes, ce qui augmenterait les cotisations d'au moins 20 milliards d'euros. Et enfin, lutter contre la fraude des employeurs et renforcer les prérogatives des CSE concernant le contrôle du versement des cotisations aux organismes de protection sociale. Donc concernant la gouvernance de la sécurité sociale. La CGT souhaite également refonder cette démocratie sociale et mettre fin à l'étatisation croissante de celle-ci. Pour cela, elle propose le retour à l'élection des administrateurs des caisses de sécurité sociale, de retraite complémentaire et de prévoyance par les assurés sociaux. Je rappelle que dans les années 80, nous votions régulièrement pour élire nos représentants des salariés dans les administrations de caisses. On souhaite aussi que la majorité revienne aux représentants des salariés dans les conseils d'administration et enfin que la sécurité sociale soit le seul interlocuteur, collecteur et payeur unique. Concernant les droits et prestations, retraite à 60 ans basée sur les 10 meilleures années, permettant d'atteindre 80% du salaire. Ensuite, agir pour la santé au travail et contre la précarité en renforçant les liens entre les enjeux du travail, de la santé et de la sécurité sociale professionnelle. Parce qu'il est évident, quand on fait de la probation, ça coûte moins cher que de faire du curatif. Et quand on a des gens en bonne santé, ils sont d'autant plus productifs. Avec comme revendication principale le droit à une sécurité sociale intégrale, c'est-à-dire le 100% sécu, démocratique et capable d'évoluer en fonction des besoins tout au long de sa vie. La CGT cherche à s'assurer que la sécurité sociale protège les individus contre les aléas de la vie, tout en servant d'outils de transformation sociale, pour instaurer une société plus juste et plus démocratique. Voilà un plan ambitieux, certes, réaliste et financé, qui pourrait résoudre la crise sociale et démocratique que traverse actuellement notre pays. Mais c'est bien en responsabilisant chacun que l'on retrouvera la confiance des travailleuses et des travailleurs dans les institutions, et notamment leur faire jouer un rôle dans les entreprises et dans cette société, avant qu'elles se glissent complètement et qu'elles ne donnent plus d'appétit encore, 1. Aux forces réactionnaires les plus rétrogrades qui gèrent depuis trop longtemps les institutions de la Sécu, d'une part, et à celles de l'extrême droite qui attendent tapis dans l'ombre et rêvent de revanche de 1936 et de 1945, ayant par le passé toujours servi le capitalisme qui s'en délecte et qui dit « pourquoi changer ?». Donc l'affaire est loin d'être pliée et nous sommes loin d'être résignés pour la CGT, le combat quotidien. Donc, dossier à suivre. Eh bien, une petite respiration musicale avec Stan and the Ghetto de Bernard Lavillier.
Ghetto. marcher et danser sans raguer. Fait trop chaud pour chanter, fait trop soif pour nanter. Trop beau pour t'expliquer ce qui se passe dans le reggae. I and I know when and where I go. But it is so hard to feed my kids. But it is so hard to stand the ghetto.
Eh bien, de retour sur Radio Tintouin, 101.8. Donc, on va aborder le deuxième thème de notre émission. Et je vais passer la parole à mon colistier, si je puis dire, ou mon coéquipier d'un
coéquipier,
soir.
C'est
voilà. À toi, Laurent.
Donc, nous allons discuter de l'atteinte aux libertés syndicales. La répression n'a jamais été aussi violente que lorsque les mobilisations s'opposent au capital ou à l'impérialisme. Ce constat émane d'Angela Davis, militante noire américaine qui sait ce qu'est la prison pour s'être opposée au capitalisme nord-américain. Mais en France, régime capitaliste par excellence, ses paroles collent cruellement à la réalité de ce que vivent ceux qui s'opposent au régime défendu par Macron et ses gouvernements successifs, et notamment les militants syndicaux. Les attaques se multiplient contre l'activité syndicale, pourtant reconnue dans notre pays et singulièrement protégée par la Constitution française. Les ministres des différents gouvernements Macron, avec un silence complice de l'Élysée, pour ne pas dire plus, montent au créneau pour faire taire la révolte sociale. Nous assistons depuis quelques années, avec une accélération sous Macron, à la poursuite devant les tribunaux de responsables syndicaux, devant les tribunaux, comme s'il s'agissait de simples délinquants. Et pour couronner le tout, on s'en prend même à notre secrétaire générale de la Confédération CGT, Sophie Binet. Pour avoir publiquement dénoncer soit la privatisation des services publics, soit la propagande d'extrême droite, soit l'exploitation de travailleurs sans papier, ou encore pour avoir maintenu une manifestation interdite au dernier moment. Ou encore dénoncer le fait que les patrons font le choix délibéré de quitter la France parce que leurs efforts seraient annihilés par l'impôt, les taxes ou les charges, comme ils disent. Quelques exemples. Étant convoqué le 17 novembre au tribunal de Bobigny, Kamel Brahmi, secrétaire général de l'Union départementale 93. Le 2 décembre au tribunal de Douai, Jean-Paul Delescaut de l'Union départementale 59. Le 3 décembre au tribunal de Poitiers, David Baudin de l'UD 79, donc Union départementale 79. Le 11 décembre au tribunal de Rennes, Pierre Chapa, militant syndical d'éducation CGT, est convoqué début 2026 au tribunal de Paris. Gérard Re, membre du bureau confédéral chargé des libertés syndicales, est mis en examen pour diffamation, pour ne citer que cela. Nous ne ferons pas plus état de tous ceux qui sont convoqués, en sachant que, par exemple, la Fédération Mine Énergie compte à peu près des centaines de militants convoqués suite aux grandes actions pour défendre le prix de l'énergie et pour se battre contre la privatisation. Donc, pour continuer, depuis 2023, et plus particulièrement les mobilisations contre la réforme des retraites, on estime au niveau national à plus d'un million à milliers, pardon, le nombre de syndicalistes CGT traduits en justice ou tombés sous le coup de sanctions disciplinaires dans les entreprises. Gérard Re estime qu'on assiste à un durcissement des rapports sociaux, qu'on sent une forte volonté de l'administration d'imposer les logiques patronales et de bâillonner la contestation. La dernière perle, si je puis dire, nous vient du côté d'éthique, mouvement patronal, initié par le célèbre Yvon Gattaz, patron du MEDEF à l'époque, celui qui promettait bien sûr 1 million d'emplois. Ce mouvement a décidé de poursuivre en justice pour injure publique, rien que ça, notre secrétaire générale Sophie Binet, qui a déclaré au sujet des patrons, et nous la citons, « les rats quittent le navire ». Dans cette métaphore, il faut juste y voir la volonté de ces principes du capital international de partir de France s'ils continuaient de taxer les pauvres. Toujours le chantage récurrent. Mais il découvre quoi, Yvon Gattaz ? Que certains de ses amis cherchent à fuir la France, voire changer de nationalité. À cet effet, vous pourrez lire la liste de tous les grands patrons qui ont quitté la France, qui sont installés en Belgique, dans certains pays où ils sont un petit peu moins taxés, en sachant que par contre, quand ils sont malades, ils reviennent en France. Mais une question, certains ne tentent-ils pas de quitter le navire France chaque année à leur façon en plaçant leurs maigres économies sous des cieux plus radieux ? Je veux ici parler des paradis fiscaux. Alors que ce même navire manque cruellement de moyens pour naviguer sur des flots moins incertains que ceux qu'on nous promet. Avec une arrivée probable de l'extrême droite aux affaires et dont on a vu par le passé. Ça ne gênait plus les capitalistes d'aujourd'hui, ça ne les gênerait pas plus d'ailleurs que ça les a gênés par le passé. Rappelons-nous que dans les années 30, où ils criaient plutôt Hitler que le Front Populaire. Chacun choisit son camp et ça fait longtemps qu'ils ont choisi le leur. Ces richesses qui sont quotidiennement dilapidées, soit avec l'aide des gouvernements depuis 2017, en aide publique de l'État, dont une récente enquête sénatoriale évalue à 211 milliards d'euros, quasiment sans contrepartie, et dont on sait que certaines, loin de servir par exemple l'emploi, la réindustrialisation ou la décarbonation de celle-ci, servent plutôt les actionnaires en dividendes sulfureux que les salaires ou la modernisation de l'outil de production. D'ailleurs, vous pouvez voir que Michelin, il y a 2 semaines, a remboursé 4,6 millions d'euros. En effet, ils avaient eu une aide pour acheter des machines qui devaient être en France, et elles étaient parties de mémoire en Roumanie. En tout cas, elles n'ont pas servi. Donc comme un célèbre sénateur, Fabien Gay, a fait partie de la commission qui interpellait et qui auditionnait les patrons, ils se sont rendus compte qu'un certain nombre de patrons touchent de l'argent mais ne s'en servent pas du tout pour investir en France. Rappelons que les principaux pourvoyeurs de ces richesses sont les salariés de ce pays par leur travail. Et oui, pas de travail, pas de richesse. Non seulement ils n'ont pas voix au chapitre quant à l'utilisation de ces fonds ou à la redistribution de ces richesses, mais ceux qui les défendent sont considérés comme des délinquants. Honte à ces exécuteurs de basse œuvre, et s'ils continuent de penser que ça nous ferait taire, au contraire, ça nous renforce dans notre action de faire la lumière sur cette société à bout de souffle et ce capitalisme qui ne sait plus comment nous sortir de cette impasse sociale dans laquelle il nous maintient depuis des années, sans résoudre pour autant les questions posées et qui aujourd'hui ne nous propose que la guerre. Oui, il est temps que cela change et la CGT, quant à elle, ne se taira pas. Oui, il est temps que la peur change de camp. Et quelques mots qui n'étaient pas prévus dans cette intervention, mais je souhaite la compléter. Rappelons-nous que la France a le triste record du nombre de morts au travail et du nombre de blessés au travail, et ça depuis 2023. La suppression des CHSCT, la suppression des organismes statutaires ou institutions représentatives du personnel fait qu'aujourd'hui, le monde du travail a les mains libres pour que chaque jour, certains ne puissent pas rentrer du travail. Donc voilà, c'est un vibrant appel sur le fait que la sécurité au travail, c'est un enjeu majeur.
Nobody's gonna so stop pretending you're shy. Just come on and dance, 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 dance. Oh. Early morning, la la light. Only getting up to close the blinds.
De retour sur Radio Tintouin 101.8, on va continuer de dérouler notre soirée après ce petit intermède musical. Donc on va évoquer l'extrême droite. On avait dit que depuis un certain nombre de mois, on reprendrait notre croisade. Alors je rappelle que c'est une campagne initiée depuis juin 2023 par la CGT au niveau national. Et il faut être en permanence, mettre ce sujet sur le métier, parce que on voit que de jour en jour, la tache brune s'avance. Et avant, elle était à nos portes et elle est quand même bien ancrée malheureusement chez nous. Alors pourquoi combattre l'extrême droite, me direz-vous ? Eh bien, au sujet du Rassemblement national, la CGT affirme sans crainte le fait que ce Rassemblement national, qui est l'une des plus fortes composantes de l'extrême droite, parce qu'il y a différents mouvements qui grenouillent autour, hein, mais c'est la force politique qui, pour le moment, préfigure l'extrême droite, et qu'elle adosse son programme de gouvernance avec les exigences de la caste financière. Mais le rouleau compresseur des principaux médias d'information, encadré par le groupe Bolloré et la nébuleuse d'extrême droite, brouille les cartes, au point de faire oublier ses liaisons dangereuses avec le grand patronat. Un petit rappel, lors des universités d'été du MEDEF, alors vous savez qu'un certain nombre de mouvements ou de partis politiques ont traditionnellement leurs universités d'été où ils réunissent et ils invitent. Et aux universités du MEDEF, qui s'étaient déroulées dans le très joli cadre de Roland-Garros, hein, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, rassurait les entrepreneurs du mouvement patronal quant à une éventuelle arrivée au pouvoir suprême dans notre pays. Une vaste entreprise de désinformation et d'orientation favorable aux idées diffusées par le RN appuie, je dirais, le travail de ce groupe parlementaire, hein, puisqu'on compte quand même 120 députés, c'est une force non négligeable, auquel on peut y adjoindre 16 députés de droite de l'UDR de Ciotti, donc vous savez, celui qui a atomisé feu le RPR, feu les Républicains, et pour faire alliance, effectivement, de glisser un peu plus vers l'extrême droite. Et sur certains points, une partie des autres droites qui ont voté, sans état d'âme, ses propositions sur l'immigration. De son côté, le Rassemblement national s'est bien gardé de voter les avancées sociales présentées par les groupes de gauche. Et pourtant, que n'a-t-on entendu de ce parti, défenseur des plus humbles et des travailleurs ? Supercherie, dit-on à la CGT, et je crois qu'on a raison de le dire. Dans sa campagne contre l'imposture sociale que représente ce mouvement raciste, xénophobe, antisémite et j'en passe sûrement, la CGT continuera d'être tenace pour décrypter les mensonges permanents du parti de Bardella et de Le Pen. Et heureusement, elle n'est pas la seule. De nombreux médias comme L'Humanité, Blast ou d'autres s'attachent à dénoncer le discours révisionniste récité en boucle, particulièrement à la télévision et bien au-delà sur les réseaux sociaux. Pour exemple, le magazine Alternative Économique décrypte le mensonge du RN en révélant que le parti d'extrême droite fait croire qu'il va libérer la jeunesse française de ses chaînes en lui faisant miroiter des exonérations d'impôts. Il envisage en réalité un plan d'austérité drastique, réduction de 107 milliards de la dette contre 143 proposés par le gouvernement. Alors vous me direz, ça fait toujours un peu de gratter. Dont la jeunesse serait victime, et elle le sera, comme tout le monde, tout en sachant que la chasse aux étrangers sert de prétexte à justifier 36 milliards supplémentaires d'économies. Quand la gauche propose la taxe Zuckmann, le groupe RN à l'Assemblée nationale vote contre. Et plus encore, le RN s'est positionné contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, ce qui pèse effectivement sur les ménages, pour le durcissement du droit à l'assurance chômage et contre le gel des loyers, contre également les moyens pour renforcer la lutte dont sont victimes les femmes, etc., etc. Donc dans le même temps, le Rassemblement national se bat pour donner toujours plus aux privilégiés afin qu'ils échappent à l'impôt. Symboliquement, ces députés votent contre la proposition d'interdire les vols en jet privé. Donc ce que propose le Rassemblement national, c'est une France repliée sur elle-même, esclavagée, haineuse, soumise à un État dont on peut imaginer qu'il passera demain de l'autoritarisme au totalitarisme. Faire front est devenu l'urgence des urgences et la CGT ne lâchera rien là-dessus, mais il faut encore faire monter le mouvement. Alors oui, nous continuerons d'informer nos auditeurs sur ce que représente l'extrême droite, un danger pour la démocratie, une imposture sociale et une supercherie pour le monde du travail dont ils se réclament abusivement les défenseurs. Et là-dessus, la CGT ne lâchera rien. Donc, à bientôt. Et bien tout de suite, une petite respiration musicale avec Pat Benatar. De retour avec la CGT sur Radio Tintouin, donc on va continuer à dérouler notre programme et on va évoquer les inégalités parce qu'on est dans un système capitaliste qui effectivement développe les inégalités. Donc on a fouillé un petit peu dans les chiffres, alors je vais laisser la parole à Laurent qui va évoquer le premier chapitre, les inégalités de classe, et je déboulerai après sur les inégalités salariales. À toi, Laurent.
Merci, Michel, de me donner la parole. Donc, le système capitaliste est un système économique organisé essentiellement autour de la quête du profit par et pour une minorité d'individus. Il génère des inégalités, car c'est sur ce principe que repose en partie sa réussite. Un fossé qui se creuse depuis 20 ans, et qui s'accentue notamment grâce aux réformes d'Emmanuel Macron qui ont fait baisser la fiscalité des plus aisés. À l'heure où la réforme des retraites est suspendue et non supprimée, elle reste très combattue tant chez les salariés que dans l'opinion publique. Et, à ce titre, les données économiques recèlent parfois des informations intéressantes et fort utiles au débat. Par exemple, pour éclairer ces inégalités, les chiffres sont têtus en parcourant différentes études officielles et sérieuses. Ce sont des données non pas venant exclusivement de Montreuil ou la Confédération CGT à ses locaux, mais issues de rapports officiels, d'enquêtes de l'INSEE et de divers travaux de recherche en sciences sociales, d'universitaires et d'instituts, etc. On y apprend quoi ? Qu'un tiers des hommes les plus pauvres meurent avant 67 ans. L'étude précise qu'à l'inverse, 92% des hommes les plus riches sont encore vivants à 67 ans. Dit autrement, les plus riches ont 25% de chances de plus que les pauvres d'être encore en vie à cet âge de 67 ans. Au nom de quoi, on peut se le demander. Exemple, un rapport de l'INSEE publié le 18 novembre 2025 révèle que les 0,1% des Français les plus riches gagnent en moyenne 167 fois plus que les 25% des plus pauvres. Si on creuse plus encore, on constate que les hommes parmi les 10% les plus pauvres ont un niveau de vie moyen de 614 euros par mois et une espérance de vie à 72 ans et 5 mois. L'écart est flagrant et l'on constate également que pour les hommes, on peut observer près de 12 années d'écart d'espérance de vie entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. Pour les femmes, les inégalités se chiffrent autour de 8 années. Même si les raisons de ces inégalités sont multiples, elles sont toujours liées au travail. La lutte pour un départ en retraite anticipée des salariés confrontés à la pénibilité et à la dégradation de leurs conditions de travail est plus que jamais d'actualité. Quoi qu'on en dise, les arguments sont bien là, et moi je vais apporter le mien d'argument. Un salarié sur trois n'arrive pas à la retraite. Cause de décès, accident de travail, maladie, etc. Donc ça veut dire aujourd'hui qu'on nous parle sans arrêt de ces fameux retraités qui vivent très très longtemps, mais déjà il faut se poser la question si tout le monde arrive à la retraite.
Et le tout, c'est pas de vivre longtemps, c'est de vivre en bonne santé longtemps.
Et l'âge en bonne santé qui a été identifié par les chercheurs, c'est 64 ans. Donc jusqu'à 64 ans, on est à peu près en bonne santé, et à partir de 64 ans, ça décline. Ça veut dire que la retraite à 64 ans, c'est une ineptie. Parce qu'avoir la retraite, c'est aussi, après avoir longtemps travaillé et cotisé, pouvoir aussi profiter un peu de la vie.
Effectivement, et comme le disait Ambroise Croizat, la retraite, c'est une autre vie qui recommence. Hein, au moins un chapitre qui continue. Alors, tu viens d'évoquer les inégalités de classe, et je vais évoquer les inégalités salariales. Et vous allez voir qu'il y a quand même un lien, et que néanmoins, la France est mauvais élève. La France n'a plus que quelques mois, effectivement, pour transposer la directive européenne. Alors, 2023-970, 2023, c'est à l'époque où elle est sortie, cette directive. Donc, ça fait quand même presque trois ans. Visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes, hein, voilà, pour un même travail ou un travail de même valeur, par la transparence des rémunérations et les mécanismes d'application du droit qui traitent de la transparence des rémunérations. Voilà le libellé de la directive. En clair, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que la France a jusqu'au début juin 2026 pour transposer dans son droit ce texte européen qui pourrait apporter plusieurs outils clés. Ce texte entend obliger les directions à informer les salariés qui en feraient la demande sur les rémunérations moyennes des personnes dans l'entreprise occupant des postes équivalents et à justifier les différences le cas échéant. Alors quand on dit que le texte tend à obliger les directions à informer, je dirais que par les institutions représentatives du personnel qu'évoquait tout à l'heure Laurent, c'était un mécanisme qui était quasiment naturel, bien que les salariés demandaient. Donc il n'y a toujours pas d'obligation, mais au moins il y a la possibilité de savoir où on en est. Si la présence des femmes dans des postes à haute responsabilité progresse, tous les autres indicateurs sont mauvais, puisque les hommes ont été augmentés plus que les femmes, 53% chez les hommes contre 51% chez les femmes. Résultat, l'inégalité progresse puisque la rémunération médiane des hommes cadres est de 16% supérieure à celle des femmes, alors qu'elle n'était que de 12% en 2024. Actuellement, selon l'Association pour l'emploi des cadres, à poste et situation égale, l'écart est en effet de 6,8% en 2025. Il était de 6,9% en 2024. Vous voyez à la vitesse où ça progresse, on a encore quelques années devant nous. Dans les entreprises de plus de 250 salariés, les employeurs devront produire chaque année un rapport sur les inégalités salariales entre hommes et femmes. Et si l'écart est plus de 5% à profil égal, ils devront mettre en place un plan d'action en concertation avec les représentants du personnel. Vous voyez que ça avance quand même un peu. On peut tirer à boulet rouge sur l'Europe, il y a des choses bonnes à voir. Lorsqu'une entreprise publiera une offre d'emploi, la directive entend celle-ci à l'obliger à indiquer un salaire ou au moins une tranche. Elles ne sont que 46% à le faire en France, dont 30% seulement dans l'industrie. Donc vous voyez le retard. Le recruteur aura l'interdiction de demander aux candidats leur précédente rémunération, ce qu'ils font néanmoins systématiquement à 74%. Alors c'est vrai, quand on va chercher un emploi, on vous dit combien vous gagnez ailleurs. Hein. Donc maintenant, ce ne sera plus une obligation, tout au moins une condition pour remplir les conditions d'embauche. Les directions vont devoir en effet prévoir des investissements en matière de ressources humaines, comme ils disent, pour répondre à leurs obligations, une enveloppe de rémunération pour compenser les écarts inexpliqués et former les managers. Alors si des pays comme la Suède et l'Irlande ont déjà pleinement transposé les directives, la France fait encore une fois figure de mauvais élève pour son retard pris. Le patronat, toujours aussi offensif, et ça on peut compter sur lui, lorsqu'il s'agit de freiner les avancées sociales, fait pression pour exclure la part de rémunération variable, donc qui est la plus discrétionnaire, mine de rien, des règles de transparence et d'alléger les obligations pour les PME, même les pénalités en cas d'infraction. Alors l'instabilité politique que connaît la France depuis plusieurs mois ne plaide pas en faveur des avancées sur les discussions, puisque les partenaires sociaux ne se sont jamais rencontrés pour aborder le sujet. Donc en 6 mois, j'espère que ça ira plus vite que pour négocier sur les accords chômage ou retraite. Espérons que cela ne se fera pas dans la hâte et qu'il ne faudra pas être contraint d'emmener au dernier moment l'assentiment de syndicats plus frileux quant à un accord global dans l'intérêt des salariés. En tout cas, la CGT y veillera, donc affaire à suivre.
L'ex-Beatle John Lennon disait que le rock and roll était mort le jour où Elvis Presley faisait le jihad près de Francfort. Certains disent que le King Vieto dans une île cachée, un endroit sûr. J'espère pour lui qu'il est bien mort. Battu tant sous terre, ça serait trop dur. On veut des légendes à consommer toute prête sur commande. Tiens le monde grâce à nos marchands d'illusions. Les hommes politiques l'ont bien compris. Ils promettent de beaux lendemains. Une fois au pouvoir, ils nous oublient. Disney
groupe loyal et bon. On peut faire une croix sur ce Messie. Y'a qu'un Jésus digne de ce nom. On veut des légendes, oui, des légendes.
Voilà, c'était Eddy Mitchell, Jean Balaya, et je vais en profiter parce que j'ai le micro pour vous parler de ce qui s'est passé il y a quelques temps avec Eddy Mitchell. Il a fait une super chanson qui s'appelait Couleur Montalo. Ça a été repris dans un événement du mouvement d'extrême droite où il y avait Alain Soral, où ils ont parodié cette chanson en mettant en cause la Shoah et en parlant que les numéros sur les bras. Voilà, je vous fais pas tout aller voir, ça veut dire l'extrême droite est capable de renier tous les gens qui sont morts dans les camps, qui ont été gravement mutilés, marqués, etc. Voilà, je voulais le dire parce que Eddy Mitchell s'est exprimé au mois de décembre là-dessus en disant que c'était une honte sans nom.
Voilà, et je veux continuer là-dessus. Eddy Mitchell avait donné une interview dans Vie Nouvelle, hein, trimestriel de la CGT, et revenant un peu sur ses engagements, et il n'a jamais renié son combat contre l'extrême droite. Et je vous invite à relire, si vous pouvez, tomber sur cette interview. C'était quand même assez éloquent. Et il en parle un peu dans son livre un petit peu autobiographique qu'il a sorti.
Pour tous les gens qui ne croiraient éventuellement pas, ça peut arriver. Donc on va citer nos sources. Allez voir la vidéo qui a été mise en ligne par Mediapart sur le fait que cette chanson a été détournée avec des paroles honte à ceux qui ont chanté ça et honte à ceux qui l'ont écouté en applaudissant.
Mais juste une petite parenthèse concernant toujours ce combat contre l'extrême droite, on a raison de le mener, je pense qu'il faut être un petit peu plus nombreux. Et à l'heure où circulent les informations, les réseaux sociaux, on a raison d'aller un peu vite. Une information, je précise, ça doit être coupé pour qu'elle soit annoncée en tant que telle. Et c'est vrai que c'est coutumier chez eux, dans leur rassemblement, de détourner, y compris des faits d'histoire, ou des œuvres, ou des chansons, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est quand même... Donc, soyons attentifs là-dessus, et puis ouvrons notre esprit sur ayons notre avis critique, ayons l'esprit critique, mais ouvrons l'esprit et allons voir ailleurs, et vous verrez qu'effectivement on continuera à dire que c'est une supercherie. Voilà, et bien on va aborder le dernier thème de notre rendez-vous. Hein, alors on va revenir un petit peu sur nos fondamentaux. On finissait toujours par une petite page d'histoire, c'est bien de le rappeler, et je pense que c'est d'actualité, ça intéresse les travailleurs, puisque on a fêté au mois de décembre les 110 ans du Code du travail. Alors, vous allez voir que ce n'est pas un long fleuve tranquille, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors, on se souvient, 1895 voit la naissance de la CGT. Et on peut dire que ça n'a pas chômé, car le 14 mars 1896, le député Arthur Groussier, alors qui était ancien secrétaire général de la CGT Métallurgie, soutenu par les socialistes d'alors, dépose une proposition de loi sur la codification des lois ouvrières. Alors je rappelle qu'il y avait un certain nombre de lois, mais qui n'étaient pas codifiées. En 1906, le Premier ministre Georges Clemenceau crée le ministère du Travail et nomme à sa tête le socialiste Roger Viviani. Donc pendant toutes ces années, une réflexion collective autour du Code du Travail regroupe parlementaires, syndicalistes, universitaires. D'ailleurs, des fois dans l'histoire, quand il se passe des bonnes choses, ce serait bien qu'on ait des tables de construction d'objectifs politiques ou même économiques en ouvrant un peu plus largement les portes à ces gens qui peuvent amener leur affaire et discuter entre syndicalistes, économistes et y compris hommes politiques, pourquoi pas, ça permettrait d'améliorer et, je dirais, d'assainir le débat ou tout au moins de l'enrichir. Alors, les débats sont houleux, hein, il faut dire, entre socialistes, entre des syndicalistes qui ne sont pas enthousiasmés par l'apparition du lien de subordination. Je rappelle que c'est tout l'art du contrat de travail, c'est un lien de subordination entre un qui vous paye, qui donne l'ordre, et l'autre qui met à sa disposition, moyennant rétribution, sa force de travail, comme on disait. Et donc, et les libéraux qui sont, alors eux, carrément opposés au projet. Alors, c'est aussi vers 1905 qu'émerge la notion de contrat de travail. Enfin, c'est en décembre 1910 que la loi est votée, donnant ainsi naissance au Code du travail. Alors, vous voyez que ça a cheminé tranquillement. Alors, symbole de progrès social pour les uns, perçu comme une contrainte par d'autres, il régit officiellement en France les relations entre employeurs et travailleurs, pour qui il représente un indispensable droit protecteur. Alors Jean-Pierre Lecrom, qui est historien et chercheur au CNRS, nous précise, je cite, « Le but du Code était à la fois de regrouper les textes existants, mais aussi d'en ajouter de nouveaux. » Mais il relève également les nombreux textes manquants, ayant apporté des avancées notables aux travailleurs. Alors je veux parler de la journée de 8 heures, notamment les conventions collectives qu'on voit apparaître en 1919. Et toujours selon Jean-Pierre Lecrom, je cite, « La loi de 1919 reste en vigueur, mais on y agrège la possibilité d'étendre la convention collective sous certaines conditions, ce qui change beaucoup de choses. En 1934, seuls 7% des travailleurs étaient couverts par une convention collective. » Bon, 2 ans après, ça va vraiment changer. Puisqu'à partir de 1936, avec le Front populaire, et donc la victoire de la gauche, ce sont de nouvelles avancées comme les congés payés, la semaine de 40 heures ou l'extension des conventions collectives. Donc le Code du travail connaîtra 3 codifications majeures. Alors d'abord celle de 1910, hein, qui s'achèvera en 1927, puis celle de 1973, et enfin la plus récente, celle de 2008, avec des fortunes diverses, il faut le dire. Mais aujourd'hui, la bataille fait rage, et nous devons rester vigilants quant à toute modification de ce texte, ô combien protecteur pour les travailleuses et les travailleurs, ce qu'il est depuis son origine, mais tellement attaqué. Car même si les forces politiques se sont transformées depuis 1910, les libéraux sont toujours là, avec leur notion de charge sociale. Les forces politiques plus diverses, entre celles quasi inféodées au patronat et d'autres plus nuancées ou encore résistantes. Et enfin les forces syndicales, diverses aussi, mais qui doivent, malgré leurs différences, rester unies et se regrouper pour enrayer tout retour en arrière. En tout cas, les travailleurs peuvent compter sur la CGT et lui accorder sa confiance en la matière. Voilà, eh bien nous arrivons au terme de notre soirée. Donc quant à moi, je vous dis bonsoir. Merci Laurent de m'avoir assisté. Merci à David qui était à la technique. Mais rassurez-vous, nous revenons en février pour une nouvelle heure. Je vous donne donc rendez-vous sur les ondes le 24. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et en ce qui concerne la CGT, on ne lâche rien. Voilà, je rappelle nos coordonnées, 11 rue Marcel Perrin à Vierzon, le téléphone 02 48 75 05 43 et le mail cgt.ul.vierzon@wanadoo.fr. Eh bien écoutez, ciao, bye bye et puis au mois prochain, hein, reste à votre disposition.
Salut, salut.
Ce soir, pendant une heure, la CGT, rien que pour vous.